Voilà, je pense qu'on peut commencer si vous le voulez bien. Je vous dis bonsoir et bonne année à tout le monde. Je suis contente de vous voir si nombreux. Je suis bien consciente que si c'est peut-être un peu pour moi, c'est en grande partie pour le film qui est absolument magnifique. J'espère ne pas vous décevoir dans mes commentaires. Et je vous rappelle qu'il y a donc un espace, même s'il faut sauter à une page ou deux, où il y aura de la place pour des échanges, des commentaires, ou si vous voulez me reprendre sur quelque chose que j'ai dit qui ne vous semble pas juste. Alors, pour ceux qui étaient hier soir présents à l'Utopia, je suis désolée parce que ma présentation du film reprenait des choses qui sont dans les pages de mon texte pour ce soir, donc je suis navrée si vous allez trouver que les commentaires sont usés, vous les avez déjà entendus, etc. Mais soyez patients, s'il vous plaît, et peut-être que vous auriez une réaction différente et ça vous inspirera quelque chose à dire. Donc, je suis professeure émérite de Sciences Po et j'ai enseigné le cinéma américain en art du spectacle à Bordeaux 3 et depuis 5 ou 6 ans j'ai l'honneur et le plaisir de faire ces ciné-conférences Utopia Mola avec toujours la même formule, c'est-à-dire une petite présentation du film le lundi soir à l'Utopia suivie le lendemain par une ciné-conférence d'une heure. J'adore les faire. Cela me fait connaître des auteurs que je n'avais jamais soupçonnés de grandeur et ça me fait aussi approfondir mes connaissances de ceux que je connais déjà. Ce soir, c'est Joe Wright et c'est son film « Darkest Hour ». Que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Alors, le titre en français, Les heures sombres, ne reprend pas le sens exact du titre anglais qui est Darkest Hour, qui se réfère bien évidemment au terme Finest Hour, okay, qui était à la fin de l'un des grands discours de Churchill quand il a dit, bien engagé dans la guerre, quand nous aurons vaincu, quand on aura gagné, on dira de nous, cela a été leur heure la meilleure. This was their finest hour. Et vous pouvez traduire leur heure la plus courageuse, plus vertueuse, la plus noble, ce que vous voulez. Vous pouvez traduire comme vous voulez, mais c'est l'opposé de their darkest hour. Et donc il y a cette résonance qui n'est pas captée en français. Alors, le film commence le 9 mai 1940. C'est la veille de la nomination de Churchill comme Premier ministre. C'est un poste que nous voyons bien dans le film. Il a visé depuis longtemps. Il est actuellement ministre de la Marine et très contesté. On sait pourquoi, quand on voit le bonhomme, parce qu'il est exceptionnel, il n'est pas comme tout le monde, certainement pas comme des gens que j'ai connus exactement, une personne originale et un génie. Alors, il convainc, donc c'est la fin de la drôle de guerre, the phony war, qui a commencé avec l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, et j'ai lu une critique qui n'avait à dire que de ce film qu'il était sombre. Sombre, sombre, comme le titre. Mais il y avait une raison historique à cela, parce que les gens craignaient déjà les bombes. Et je crois que la chute des bombes est une préoccupation fondamentale pour toutes les personnes dans le film. Mais c'est aussi, ça entre dans l'esthétique dont je vais parler dans un certain temps, d'un réseau d'horizontaux et de verticales qui nous occupe intensément les yeux, aussi bien que les plans séquences pour lesquels Joe Wright est célèbre. Donc, Nous voyons bien que ce n'est pas le Dunkirk de Christopher Nolan qui sortait en début d'année, qui prend l'histoire, le narratif par le biais de l'homme du commun, le propriétaire d'un petit bateau enrôlé par Churchill aussi dans le rapatriement des soldats qui sont à Dunkerque et participe à cette opération Dynamo qui était un succès dans la mesure où il y avait un très grand nombre de soldats anglais, un certain nombre aussi de soldats français qui étaient rapatriés en Angleterre à la fin de cette opération. Donc Hitler, excusez-moi, il faut que je lise, le téléfilm de Jonathan Teplitsky, également de cette année, a été appelé Churchill et a disparu assez rapidement. Il paraît que ce n'était pas très, très bon. Et il traitait de D-Day, le débarquement, donc 5 ans plus tard, et pas de la même époque. Gary Oldman, nommé meilleur acteur dans les BAFTA, c'est-à-dire les Oscars de cette année, les Oscars britanniques, les BAFTA, n'est pas le premier grand acteur à jouer le rôle de Churchill. On peut citer avec enthousiasme le grand Albert Finney dans The Gathering Storm de Richard Lancrene, un très bon téléfilm de 2002. Cette version-là, elle mérite de montrer une Clémentine Churchill plus grande que son mari, comme dans la réalité, sous les traits de Vanessa Redgrave. Ce téléfilm traite du Churchill des années 30, la période précédant celui du film de Wright, et il est le remake d'une version du même titre, coproduit par la BBC et la chaîne américaine NBC en 1974, avec Richard Burton en Churchill. Ces films racontent le Churchill des années 30, la période juste avant celle traitée dans les heures sombres. Le scénario du film de Joe Wright a été rédigé par Anthony Mark Carton, qui a déjà écrit un biopic de Stephen Hawking, Une merveilleuse histoire du temps, un film de James Marsh, sorti en 2014, honoré par le prix BAFTA du meilleur film de l'année. En même temps que sort le film de Joe Wright, McCartan fait publier un livre, Darkest Hour, dans lequel il narre les événements du film en montrant comment Churchill, l'écrivain, influencé par les maîtres romains de la rhétorique, tel Cicéron, et analysant les influences littéraires sur les grands discours de ce premier mois d'exercice de Churchill Premier ministre. Ce film est aussi, le réalisateur l'a crié haut et fort, un film sur le pouvoir du langage. On se rappelle que Churchill, leader politique et homme de guerre, était bien, aussi bien qu'artiste peintre accompli, est aussi un grand écrivain, prix Nobel de la littérature qui n'a écrit qu'un seul roman, mais des volumes de mémoires de guerre, des best-sellers de biographie et d'histoire. Il a dit de lui-même que l'histoire à venir le traiterait avec respect, car c'était lui-même que l'histoire à venir qui allait écrire cette histoire. Ce qu'il a fait en 6 volumes et ce qui a réglé ses problèmes de trésorerie qu'on voit dans le film. Et d'ailleurs, au début de sa carrière, a été également commencé par la publication de volumes décrivant ses aventures de jeunes militaires dans des endroits très lointains. Et il a gagné des sommes énormes à l'époque, avant les années 20. Il faut dire, comme on l'a vu dans le film, que son mode de vie était passablement coûteux. Et en consommant 2 bouteilles de Paul Champagne et Paul Roger par jour, c'était très, très agréable, certainement. Et voilà, donc, parmi ses plus grandes œuvres littéraires sont les 4 discours prononcés devant le Parlement ou à la radio ou aux communes pendant cette période qui commence le 9 mai 1940. Wright le présente comme une sorte de maître comédien, écrivant des textes qui conviennent à son personnage, destinée à apparaître comme une icône de confiance et de courage malgré sa peur. Wright a aussi dit que son film traitait du doute. Donc, McCartan avance dans ce film l'idée peu répandue que Churchill lui-même a eu un moment d'hésitation et ce n'était peut-être pas aussi, et n'était peut-être pas aussi convaincu que l'on ne croit qu'il faille conduire en guerre la population entière de l'Angleterre, à commencer par le sacrifice des 4000 soldats anglais qu'il ordonne à ne pas évacuer Calais. Et il faut se rappeler que la première guerre donc, mondiale s'est terminée en 1918. Nous sommes en 39-40. Il y a des gens qui ont combattu dans la première guerre qui s'attendent à une autre guerre avec le même ennemi. Et on peut imaginer la frustration et la peur, surtout à voir les pays de l'Europe occidentale qui tombent comme des quilles devant les Panzer nazis. Alors, la critique. Les réactions au film de Wright ont été très diverses et parfois tranchées. Le Figaro fête sa sortie en grande pompe en diffusant des publications et des émissions de radio centrées autour de Churchill. Mais la revue Télérama n'a pas été convaincue. Le Monde affichait le film comme un acte de vénération d'un héros avec lequel on pourrait être en désaccord politique, pensant à son comportement vis-à-vis de la guerre d'Espagne de 1936, et à considérer le film convenu et dénué d'intérêt. Le critique Anthony Lane, un Anglais, depuis 20 ans critique de cinéma au New Yorker, magazine américain pour citadins cultivés, a consacré son article presque entièrement au grand nombre d'acteurs anglais de premier rang, Cox, Finney Burton, entre autres, qui ont joué à l'écran Winston Churchill, mentionnant comme Gary Oldman, ils sont tous issus de la classe ouvrière. Il a écrit 4 pages dessus. Et c'était son unique commentaire. Mais un jeune critique de Libé, Luc Chessel, l'a accueilli avec enthousiasme, disant que Wright a su faire quelque chose qui dépasse le biopic, donc le film biographique, et il a fait ce que Chessel appelle un démotique, quelque chose tiré du mot grec démos, quelque chose qui brosse le portrait de tout un peuple. Alors, c'est une chose qu'on peut discuter tout à l'heure, mais je crois que déjà le terme biopic est associé très souvent avec un film de moindre intérêt fait avec pour mettre en valeur une star et pas toujours magnifique. Mais depuis une vingtaine d'années, il faut dire que les biopics sont à l'honneur et on les fait avec énormément de maestria. On peut penser aux The Hours, les heures de Stephen Daldry sur Virginia Woolf. On peut parler aux deux films sur Truman Capote. Avec ce film-là, quel est le film auquel nous pensons immédiatement? C'est le Lincoln de Steven Spielberg d'il y a quelques années, 2012, je crois, et dans lequel nous avons un acteur magnifique, Daniel Day-Lewis, qui fait un peu comme Oldman, parce qu'on regarde Oldman, on sait que ce n'est pas Churchill, il ne ressemble pas. Albert Finney faisait mieux. Ce n'est pas une ressemblance exacte, mais il a le verve, il a la passion et il a la persistance, enfin les caractères moraux de cette figure qui rendent peut-être la ressemblance moins nécessaire, bien qu'il ait commencé tous les jours à 2h30 du matin pour commencer le maquillage. C'est peut-être pas dans le maquillage où réside sa caractérisation. Voilà. Donc, pour ma part, je signale, comme tout le monde, l'interprétation magnifique de Gary Oldman, que nous avons vue en beaucoup de personnages méchants ou troubles. Sid Vicious, chanteur des Sex Pistols, Lee Harvey Oswald, ou un espion fatigué, dans un film sur un livre de John le Carré, ou comme le merveilleux et fascinant, moi je l'ai trouvé très séduisant, Dracula, dans le film de Martin Scorsese. C'est un film extrêmement romantique qui donne une interprétation assez freudienne de Dracula. Alors, Oldman est extrêmement brillant. Il a même écrit un livre, Ne pas avaler, sur son enfance extrêmement défavorisée, et créé le scénario et réalisé un film tiré du même roman. Donc c'est un garçon qui est un garçon. C'est un monsieur, un très grand monsieur qui a énormément de talent et qui a trouvé son chemin au Royal Academy of Drama et est devenu extraordinaire. Donc, on peut parler du film de Joe Wright comme de l'histoire, la narration d'une époque, un parti pris politique, si vous voulez, s'il y a des gens que ça intéresse de discuter de la politique d'il y a si longtemps, ou un objet qui a peut-être une certaine signification actuelle, parce que voilà un chef d'État avec un merveilleux pouvoir d'expression. Et je suis américaine, donc je me permets de vous signaler qu'il y a d'autres chefs d'État dans le monde qui n'ont pas cette même merveilleuse talent avec les mots. Et il y a peut-être de ça. Et aussi, je suis absolument certaine que la première fois que j'ai vu le film, qui était une version des distributeurs envoyés à l'Utopia. L'Utopia m'a permis de le voir il y a quelques semaines, bien 5 ou 6 semaines, etc. Je suis sûre qu'il y avait des mots dans la bouche de Churchill qui allaient dans le sens à dire qu'il fallait qu'il y ait une union des pays européens. Et on m'a dit hier qu'au fait, à un moment donné, il a souhaité la fusion de la France et de l'Angleterre. Donc, pour les Anglais, et je suis sûre que cette réplique n'existe plus, c'est-à-dire les 3 dernières fois que je l'ai vue, cette réplique n'est pas toujours dans le film. Je pense que je n'ai pas rêvé, mais l'idée de sauver l'Europe et en se sauvant soi-même, va peut-être à l'encontre de ceux qui soutiennent que le Brexit est le meilleur avenir de l'Angleterre. Donc, j'aimerais parler des Heures sombres comme étant un film de Joe Wright, faisant partie intégrante de son œuvre et marqué par son style personnel. Ce qui distingue ce film de tous les autres sur Churchill, il y a certes des ressemblances avec d'autres films. Il y a certes un certain répertoire d'événements qui sont respectés de film en film. Une sorte de liturgie de la matière churchillienne permettant de s'y repérer. Y compris des phrases sorties de ses lettres ou celles de sa femme, reprises telles quelles dans les dialogues. L'initiation de la nouvelle secrétaire, Mademoiselle Layton, dans tous les films. La réplique finale du film, pourtant, a été prononcée plutôt que par un parlementaire britannique, par Edward R. Murrow, célèbre journaliste de guerre américain, au sujet du film de George Clooney, qui fut le sujet du film de George Clooney, Good Night and Good Luck, 2005. Donc, le style de Wright. Donc, le scénario nous présente Churchill dans sa relation avec sa secrétaire, prenant la dictation alors qu'il se prélasse dans l'un des 2 bains tièdes qu'il prenait chaque jour, se lançant parfois dénudé dans les couloirs. On le montre au lit, recevant son petit déjeuner énorme des mains de son valet, mais le petit déjeuner chez Joe Wright, et c'est différent de tous les autres films, est plus historiquement correct, montrant le whisky soda léger dans sa place habituelle sur le plateau matinal. Le film de Lundgren, c'est le Gathering Storm avec Albert Finney et avant lui avec Burton, reste classique, limpide, correct et sans le panache du film de Wright qui peut, il est vrai, certains, agacer certains. Les mouvements de caméra, la création d'une sorte de topographie de l'espace filmique poétisé, symbolique, traversé par des mouvements verticaux et horizontaux qui aspirent les spectateurs dans le mouvement perpétuel du film, l'intégration de la musique de Dario Marianelli, deux fois oscarisé déjà pour son travail avec Joe Wright, et ils ont fait 5 films ensemble, participe d'un tout marqué par une théâtralité affirmée au service d'une certaine littérarité, car on se rappelle que les meilleurs films de Wright sont tous des adaptations d'œuvres classiques. C'est le cas des plus primés, Orgueil et Préjugé, 2005, Reviens-moi, 2007, Anna Karenine, 2012. Et c'est aussi le cas d'un flop qui était Pan, 2015, un film vaguement pour enfants, une préquelle, ce qui essaie d'imaginer l'histoire de Peter Pan avant que son histoire fût écrite par J.M. Barrie. C'est vraiment ennuyeux. Et par contre, il y a une, il y établit beaucoup de choses. Le bateau du futur Captain Hook vole dans les airs et il y a une interaction entre le sol et le ciel et des mouvements de caméra tournoyants qui sont assez proches de ce qu'on voit dans ce film fait 2 ans plus tard et pour beaucoup moins d'argent. Et comme a dit Joe Wright, le temps est venu pour lui de faire un film dans des petites pièces et pas dans le ciel entier. Alors, voici Joe Wright. J'ai choisi une photo. Il a des magnifiques yeux bleus. Et vous avez certainement lu son histoire. Enfant dyslexique, il ne pouvait pas maintenir une scolarité moyenne ou normale, que ses parents ont envoyé dans une école de théâtre pour le socialiser un peu, dont les parents avaient fondé un théâtre de marionnettes dans le nord de Londres, et c'est à discuter, est-ce que la stylisation de l'expérience théâtrale par les marionnettes a quelque chose à voir avec le style de Joe Wright. Et donc, il y a une histoire merveilleuse qui veut qu'il est allé pour la première fois au cinéma et il est rentré ébahi. Et il a dit à sa maman, « Mais maman, j'ai vu un film, comment ça se fait? Comment on fait un film ?» Et il a eu la chance d'avoir une maman qui savait comment on fait un film et elle a montré avec une petite boîte en carton, un crayon pour enrouler le storyboard qu'elle avait fait pour lui. Et donc, depuis son très jeune âge, il a voulu faire du cinéma. Donc, il a commencé dans une école d'art assez célèbre, le St. Martin's à Londres. Et il a commencé avec des séries à la télévision et des publicités. Et tout à l'heure, quand je vous montrerai les extraits, je vais vous montrer un extrait de film et un extrait qui va peut-être vous surprendre, mais qui montre le même sens de présence dans l'espace. Et c'est un magnifique, peut-être que vous l'avez déjà vu, il en a fait 3. C'est avec Keira Knightley, son actrice fétiche, les petits films qu'il a fait pour Coco, le parfum Coco de Chanel. Et qui sont vraiment des petits chefs-d'œuvre. Je vous montrerai celui de 2014 qui dure 3 minutes. Je pense que ce n'est pas un temps perdu. Alors, tout est sombre à cause de la guerre. On évite d'attirer les envies des bombardiers. On est au tournant, on l'a déjà dit, entre la drôle de guerre et le début de la Deuxième Guerre. On a vu que dans le film de Joe Wright, on aurait pu montrer la plage, la rapatriation des soldats de Dunkerque et les bateaux, etc. Le film de Joe Wright a été envisagé avant que Christopher Nolan entreprend le sien. Mais il y a un autre aspect au problème, c'est que Joe Wright avait déjà fait une partie de film sur Dunkerque. Je ne sais pas si vous avez vu Reviens-moi, une adaptation de roman Atonement, en anglais, de Ian McEwan. Ce livre et le film sont au programme de l'agrégation d'anglais cette année. Et les deux sont absolus, sont pas identiques, mais merveilleux, et le livre et le film. Et c'est une histoire tragique d'un amour contrarié par un mensonge. Et l'amant est envoyé en prison, il sort de prison parce qu'il est innocent et d'un viol. Mais on a menti à son sujet et ça convenait à tout le monde, sauf les plus proches intéressés. Et pour sortir de prison, il est devenu soldat. Il essaie de monter sur un bateau, il se rend sur la plage de Dunkerque et ça a été filmé sur une plage anglaise. Je vous le montrerai, c'est très beau, il fait 5 minutes. Ce film, ce petit bout de film, est un seul plan séquence. Un travelling qui suit le soldat pendant 5 minutes. Dans les derniers moments de sa vie, parce qu'il va trouver une place souterraine où il va se coucher, il va mourir là-dedans. Je pense que vous serez d'accord que c'est un concept, une idée totalement différente de celle de Christopher Nolan, de ce que fut Dunkerque. Et ici, nous avons ce jeune soldat séparé de sa... maîtresse part à une déclaration fausse l'accusant de viol sur une autre personne et il veut rentrer, la retrouver, avoir une vie normale. Et ici on est à la lisière qui sépare la vie et la mort, la terre et la mer, et on voit tellement de joie et de plaisir et aussi de peine de la vie qui passe. C'est à la fois personnel et humain, parce qu'un soldat représente, est toujours un everyman qui nous représente tous. Et voilà, c'est très très beau. Vous avez remarqué que c'est un seul plan séquence et on a suivi ce soldat depuis 5 minutes et on est avec lui absolument comme il trouve son chemin entre les grandes roues, les concerts, les beuveries, etc. qui sont sur la plage de Dunkerque. Donc c'est aussi un travelling qui suit une seule personne et qui ne quitte jamais cette personne. Et tout est raconté par le biais d'un travelling focalisé sur elle. Et beaucoup d'espace est couverte, mais on voit que sa trajectoire est ininterrompue. Elle ne s'arrête pas, elle n'est pas... son vol n'est jamais suspendu, elle continue son chemin et voilà. Donc, cette utilisation de l'espace, cette utilisation du travelling, on voit dans la première partie des heures sombres des exemples extrêmement belles. Par exemple, quand Churchill arrive pour voir le roi, il y a toute une enfilade de pièces qu'il traverse. Et à la maison, il est en train de parler avec sa famille, il sort de son bureau, il fait tout un chemin, il contourne la table de la salle à manger, puis il retourne et il continue à parler pendant tout ce temps, mais il est perpétuellement en mouvement. Et là, c'est le Churchill de 65 ans, ce n'est pas le monument vivant de 20 ans plus tard. Il est assez, est-ce que j'ose dire jeune, mais on voit sa démarche est rapide. Et Churchill est une personne qui, sa voix est en mouvement, est très colorée, et c'est une personne dynamique et vitale. C'est reflété dans le film. Et ce que nous trouvons constamment, on a différents types de mouvements. On a un ruban horizontal, des gens qui sont un peu bizarres parce qu'ils sont très lents, comme s'ils étaient sous l'eau. C'est les habitants de Londres vus par Churchill comme ils passent dans sa Rolls. Et cette ligne horizontale devient en fin de compte la scène dans le métro où il va rencontrer les Londoniens dans leur milieu, un milieu qu'il n'a jamais testé. Comme la seule fois qu'il est allé dans le métro, il s'est perdu. Cette scène du métro donc, fait partie donc, des passages horizontaux, mais quel est le chemin vertical auquel on pense constamment? C'est le chemin d'une bombe. Et on voit beaucoup de scènes où il y a des avions qui ne sont pas naturalistes. Le film refuse vraiment le réalisme naturaliste, mais qui passe sur un terrain déjà bombardé en France. Et on voit le regard de la personne en dessous qui voit la bombe qui va tomber sur lui, qui tombe dans les trous, dans les cratères, presque comme un jeu de foire. Donc, on a ce mouvement vertical. Et il y a une chose assez spéciale. Par exemple, là, c'est la chambre de commune actuelle. Et je ne sais pas si vous regardez le mercredi sur Sky News les questions au Premier ministre, mais c'est une salle qu'on a l'habitude d'avoir. On voit qu'il y a 5 congés et il y a toujours des gens qui sont debout parce qu'il n'y a en réalité pas assez de sièges. Pourquoi il n'y a pas assez de sièges? Parce que s'il y avait certaines personnes qui ne venaient pas à la télévision, ça faisait mauvais genre. Donc, voilà. Mais alors, en construisant le décor, il y a un musée à Londres, The Imperial War Museum, qui gère les pièces sous terre qu'on peut visiter où les ministres se sont rencontrés. Et voici la Chambre des communes à l'époque du film, c'est-à-dire en 1940. Et on peut remarquer qu'il semble avoir beaucoup de place quand on voit la Chambre des communes dans le film. On remarque qu'il semble avoir des milliers et des milliers de personnes, pas 600 parlementaires, mais des milliers de personnes, et c'est très escarpé. Et c'est comme presque une arène. Une arène, il y a beaucoup de bruit, etc., et des cris. Ce n'est pas voilà, quelque chose de consensuel et de formel. C'est quelque chose qui vibre. Alors, comme le temps passe, et je voudrais que vous ayez le temps de vous exprimer, avant de conclure, je vais vous montrer les images que j'ai réunies. Donc, voilà Churchill en 1940, et voilà Churchill et sa femme. Donc, vous voyez que Kristen Scott Thomas, elle est assez ressemblante. Prochaine, c'est Churchill et sa femme. Et voici les acteurs qui ont joué Churchill, Albert Finney, Richard Burton. Et voilà, je ne sais pas si vous regardez The Crown en Netflix, excusez-moi, c'était impossible aujourd'hui de prononcer ce mot. Et c'est John Lithgow qui le joue actuellement. Et donc, l'une des premières scènes du film où on voit, donc je voudrais répondre aux critiques qui ont vu que des choses sombres, 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 qu'en fait, c'est un jeu de lumière et de l'ombre. Et au fait, ça, c'est une bonne métaphore pour l'action. Voilà. Alors ici, nous avons une photo donc de Churchill qui peint. Et ce qui peut vous surprendre, c'est la qualité de ces tableaux. Pour un amateur, son fils qui lit, une salle de billard. Et ça, c'est son dernier tableau. C'est les poissons rouges dans le petit étang dans sa propriété de Chartwell. Et voici un des discours de Churchill où on prétend, enfin McCartney dans son livre, dit que par la mise en page des discours de Churchill, on peut voir qu'il concevait de ses écrits comme d'un poème, une sorte de poème ou un psaume. Parce que la mise en page de la Bible anglaise ressemble à cela. Et ça, c'est la fin de mes images. J'ai également un extrait assez long de Carol Knightley qui présente l'Anna Karenine de Joe Wright, qui est assez remarquable, qui ne correspond pas à tout point de vue au livre de Tolstoï et qui est particulièrement remarquable parce qu'ils n'ont pas pu aller en Russie pour filmer les différents lieux décrits. Et donc Wright a trouvé un théâtre abandonné et il a adoubé certains endroits, certaines plateformes, créé des décors à l'intérieur de cet espace théâtral qui sont parfaitement artificiels, mais qui permet le jeu d'émotions d'être absolument intact, tout en nous rappelant qu'au fait, la vie est un théâtre et qu'aussi, on peut voir Anna Karenine comme une histoire du 19e siècle, de la femme qui souffre à cause de la société qui ne lui laisse aucune liberté, etc. Et donc, pour conclure, je voudrais juste dire que je pense que ce film est remarquable en tout point de vue, mais il est aussi remarquable parce que c'est un film de Joe Wright que je respecte énormément et que je vous recommande. Tous ces films sont magnifiques. Bon, je vous remercie d'être venu, surtout avec le temps qu'il fait. Très content. Merci.